Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, ou l'agriculture racontée par ceux qui la font. Rendez-vous aujourd'hui à la ferme de l'Arc-en-Miel, au Mas de Roubi, où Nadia et Bruno y pratiquent l'apiculture et accueillent le public pour une visite guidée pédagogique révélant les détails de leur activité.
Voilà, alors, bienvenue à la ferme d'Arc-en-Miel. Moi, je suis Nadia, et avec Bruno, qui est ici, donc nous sommes apiculteurs professionnels. C'est notre métier d'élever les abeilles. On a 300 ruches depuis 10 ans. On est installé à Sainte-Afrique depuis 10 ans en tant qu'apiculteur. Et donc, 300 ruches qui ne sont pas toutes à Sainte-Afrique. Il y en a 5 ici que vous allez rencontrer, qui sont des ruches pédagogiques ou de visite, qui sont là pour se montrer à qui on ne prend pas de miel. Il y a un rucher également au-delà du parking, il y a 30 ruches là-bas. Voilà. Et après, on a 9 ruchers qui sont installés dans des emplacements différents, dans un rayon d'1 h 15 autour de Sainte-Afrique. Sud Aveyron, Nord et Hérault. L'Hérault, c'est le département juste en dessous. Donc vous allez voir beaucoup d'abeilles, vous allez voir l'atelier d'extraction et de mise en pot, vous allez voir comment on fait ça. Et on terminera par une grande dégustation d'une dizaine de miels, où on essaiera, vous verrez, de poser des mots sur les saveurs, comme lors d'une dégustation de vin. Est-ce que c'est boisé, fruité, floral, etc. On essaiera d'initier nos papilles aux saveurs du miel, si ça vous va. Alors on y va, c'est Bruno qui va vous accompagner.
Alors, Nadia vous disait tout à l'heure que nous étions apiculteurs professionnels depuis 10 ans sur le secteur africain. C'est-à-dire que nous, il y a 16 ans de ça, on ne connaissait strictement rien aux abeilles. Moi, j'étais informaticien sur Montpellier et Nadia travaillait dans le tourisme rural. Donc c'est vraiment une reconversion, petit à petit on s'est formé. Moi, je suis retourné à l'école une année entière, donc j'ai pris un congé individuel de formation. Donc ça existe toujours. Et pendant un an, je suis parti me former à l'apiculture professionnelle. Et au bout d'un an, je suis revenu dans mon entreprise. Là, vous êtes bien rendu compte, vous avez des comptes que je me suis retrouvé devant mon écran, 8 heures par jour, et là, ça ne me faisait plus du tout. Donc, quand j'ai quitté mon entreprise, il y a 10 ans, on est arrivé ici, on a monté notre projet. En 2014-2015, on a monté ce bâtiment, qui est un bâtiment agricole, le premier, c'est une miellerie, donc c'est là où on va travailler le miel, c'est là où on va stocker notre matériel, et c'est là où on a créé un parcours de visite, puisque depuis le début, notre projet aussi, c'était partager, l'envie de partager notre passion du monde du vivant. D'accord ? Alors, quel est le rôle de la reine dans une colonie d'abeilles ?
Elle
fait des bébés. C'est tout ce qu'elle fait ?
Elle dirige, je le vois.
Tu crois ? Alors, c'est une... déjà, la reine, c'est une erreur de l'appeler la reine. Elle ne devrait pas l'appeler la reine. Comme tu disais, la reine, elle pond, elle pond, elle pond. Elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Donc toutes les abeilles que vous voyez là, ce sont les filles de la reine. Donc si ça c'est les filles, comment on devrait appeler la reine?
La maman.
La maman. Et il faut savoir que si la maman ne fait pas bien son travail, eh bien les abeilles vont la tuer.
Non.
Mais si. Mais il faut penser que l'individu, c'est pas l'abeille ou c'est pas la reine l'individu. L'individu, c'est la colonie. Donc tout est fait pour la survie de la colonie. Si moi j'ai un appareil qui tombe en panne, normalement je ne prends pas l'appareil, je ne le jette pas. Je change la pièce qui est en panne à l'appareil pour le réparer. Mais là c'est pareil. Si la reine fait mal son travail, qui est de pendre, elle met en danger la survie de la colonie. Donc les abeilles vont changer la pièce. Elles vont tuer la reine et elles vont élever une dizaine de nouvelles reines par mesure de sécurité. Toujours une dizaine. 10-12, ça va dépendre des colonies. Les 3 premiers jours de leur vie, c'est nourri à la gelée royale. Gelée royale, mélange de miel, de pollen et d'enzymes qui sécrètent les abeilles avec leur rendement. Et au bout de 3 jours, ça s'arrête. Elles vont nourrir les larves avec du pain d'abeille, un mélange de pollen et de miel. Du coup, la larve va devenir une ouvrière. L'espérance de vie, 42 jours en saison. Les abeilles ont décidé qu'elles avaient besoin de graines. Et donc, après les 3 jours, elles vont continuer à lui donner le royal, et ça jusqu'à la fin de la vie de la reine. Du coup, La reine va avoir ses organes oppositeurs qui vont se développer. Vous verrez tout à l'heure chose entre elle et la reine, beaucoup plus grand. Et surtout, son espérance de vie va passer de 42 jours à 5 ans maximum. Ouais. C'est pour ça qu'on attribue peut-être beaucoup de vertus à la magie royale. Pas sûr si j'en mangeais tous les jours, je vivrais 250 ans. Mais je peux essayer de s'accoutumer.
Est-ce que les humains sont capables de créer des reines?
Oui, on va élever des reines. Donc, quand on est professionnel, quand on a un certain niveau, un certain seuil, on va élever nous-mêmes nos reines. Parce que le travail d'apiculture, c'est un travail de sélection.
C'est ce qui est privilégié?
Quand on a un certain seuil et qu'on vit aussi du métier, on est obligé. Parce que pour deux raisons. Parce que déjà, si vous avez une ruche qui présente des caractéristiques, qui est sensible à une maladie, si vous laissez faire, ben la fille qui est issue va certainement, vous avez 99% de chance qu'elle redéveloppe la même maladie. Donc vous continuez à développer la même maladie.
D'accord.
Donc il va falloir changer la génétique pour essayer de ne pas avoir ce problème de maladie. Donc il y a un travail de sélection. Mais attention, il y a sélection et sélection aussi. Parce que les problèmes de l'apiculture, les premiers problèmes d'apiculture, ce sont les apiculteurs qui se les sont créés. Nous sommes responsables de nos problèmes. C'est nous qui, depuis 100 ans, on fait venir des abeilles de toute la planète. On a tout mélangé pour trouver l'abeille qui était la plus douce, celle qui piquait pas, celle qui faisait le plus de miel, celle qui mettait le miel directement dans le pot. On a même essayé de trouver celle qui pouvait l'appliquer sur le pot, mais ça n'est pas arrivé. Donc on a fait venir des abeilles de partout, on a tout mélangé, on a fait la mondialisation même avant qu'elle soit là. Et du coup, on a amené les abeilles, on a amené toutes les maladies. Et on a tout mélangé. Et maintenant, on est aussi responsable, parce qu'on accuse souvent les apiculteurs, attendez, l'apiculture accusée, les agriculteurs, les industriels, mais nous déjà, on est responsable de beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ça, c'est un essai naturel. C'est-à-dire que, là, vous voyez, dans les abeilles, on a mis des larves. Là, on a juste posé les abeilles, et toutes seules, elles vont se débrouiller.
Approche-toi, j'ai des larves.
Donc, vous voyez, c'est elles-mêmes qui ont fabriqué les rayons de cire. Je vais me pousser, vous allez regarder. De ce côté, il y a une limite orange. Tout simplement, c'est la construction de l'année dernière. Et après, au printemps, elles ont agrandi ici, au-dessus, et là. Le problème de l'apiculture en France, le premier problème que les médias ne parlent pas, c'est le manque de fleurs. Il est là, le premier problème de l'apiculture en France. Je vais vous donner un exemple, vous allez vite comprendre. Imaginez que j'étais apiculteur il y a 25 ans. Belle ruche, 60 000 individus, 60 000 abeilles, une belle reine, bien dynamique. Eh bien, en une année, elle aurait produit à peu près 180 kg de miel. Sur 180 kg de miel, moi, si j'avais été apiculteur il y a 25 ans, j'aurais posé 5, 6 ours. Je sais que pour les abeilles, elles ont besoin à peu près de 120 kg ici dans le sud d'Aveyron pour vivre toute l'année. Donc, j'aurais pris 60 kg de miel sans aucun problème. Maintenant, imaginons que j'arrive à prendre, si c'était possible, de prendre les mêmes abeilles qu'il y a 25 ans, les mettre ici au même endroit, l'arc à miel, la même reine, tout pareil. Eh bien, la même colonie d'abeilles en 2020 ne produirait plus qu'entre 120 et 140 kg de miel. Du coup, quand on met deux ours et qu'on a fait 20 kg de miel, on dit « Yes !» On a fait une très bonne année. Et quand on va voir les papiers par là, qu'on leur dit « Ah, je suis content, hein, j'ai fait 20 kg de miel par ruche. » Il me dit « Mais attends, Bruno, 20 kg, moi, c'était la ruche la plus minable. C'est bien qu'il y a un problème de fleurs. » Alors, comme les abeilles ont déjà besoin de 120 kg de miel à l'année, elles sont toujours limitées. Donc, si vous vous rappelez l'été dernier, la sécheresse, je ne sais pas d'où vous venez, mais ici dans le sud d'Aveyron, on a commencé, la première vague est arrivée vers le 1er juillet. Très tôt, très fort, donc pour 40 degrés. En pleine floraison des châtaigniers. Les châtaigniers ici, c'est 3 semaines, c'est une énorme ressource pour les abeilles. Ils ont fleuri 5 jours l'année dernière. Il y a 4 ans ou 5 ans en Centrafrique, je ne sais pas d'où, chez vous, c'est mieux, il faisait 20 degrés au 15 décembre. Je ne sais pas pour les Centrafricains si vous vous rappelez. Il faisait 20 degrés au 15 décembre. À 20 degrés, les abeilles sortaient à fond la caisse. Seulement, les abeilles, normalement, l'hiver, elles ne bougent pas. Elles consomment très peu de miel, elles consomment à peu près 100 grammes de miel par jour. Là, on était sur une consommation, vous verrez en bas, on a des balances. Toutes nos ruchers ont des balances, donc on voit le poids des ruches en temps réel. Et bien là, c'était sur 1,5 kg de miel par jour. Donc des ruches, au mois d'octobre, qui étaient lourdes, qui étaient blindées de miel, et bien fin décembre, elles étaient sèches. L'apiculture, ça veut dire qu'il n'y avait plus un gramme de miel. Donc tous les apiculteurs qui ne sont pas passés rapidement au mois de décembre, janvier, dans le Centrafricain pour donner à manger à leurs abeilles, un mois après, ils ont retrouvé toutes leurs abeilles mortes de faim. Pourtant, elles étaient blindées de miel. Pas d'hiver, chaleur. Cette année, pareil, le printemps, je ne sais pas si vous avez fait attention, le printemps, très précoce. Mois de janvier, déjà tout fleurissait. Ben, les abeilles, la nature a suivi les fleurs, donc elles sont sorties. Elles sont sorties. Et après, le printemps, ça s'est lissé. des vagues de froid, normal, mais elles, ça fait mal. Moi, j'ai des copains dans les Cévennes, ils ont perdu des ruches mortes de fleurs, au mois de mai, il y a plus de fleurs, normalement. Donc, le travail maintenant, l'un des travaux des apiculteurs, ça va être de surveiller les réserves de miel. Et des fois, on va être obligé de nourrir au printemps, des fois, on va être obligé de nourrir l'été, des fois, on va être obligé de nourrir l'hiver. Parce que nourrir les abeilles, ça a toujours existé en vérité. Les Égyptiens, au niveau de l'Antiquité, il fait chaud, je suis désolé. Ils nourrissaient déjà leurs abeilles, mais c'était exceptionnel. Tandis que nous, je dirais pas sans arrêt, mais il va toujours être vigilant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait plus de fleurs?
Arrêter de déboiser.
Ouais. Arrêter de faucher, de déboiser, tu as tout raison. Vous avez vu pendant le confinement, le bord de route, c'était café de fleurs. Il y a des fleurs partout. Ça fait des kilomètres, des hectares et des hectares de fleurs. Là, il y a plein de fleurs pour les pollinisateurs, pour les guêpes, pour les coccinelles. Par contre, trois jours après le confinement, les conseils départementaux, on tout fauché, hein. Il n'y avait plus rien, ça faisait propre, hein. Donc, demandons aux élus d'arrêter de faucher. Il y a la ville de Millau qui le fait depuis 2 ou 3 ans. Ils fauchent une fois par an, au mois de juin, c'est parfait. Ils enlèvent tout ce qui est sec, ça va faciliter la repousse des fleurs de pluie. Après qu'on fauche des grands points ou des croisements dangereux, ça c'est autre chose, c'est normal, c'est la sécurité. Donc déjà, on a ça. Mais même nous, dans le jardin chez nous, moi, si j'ai 500 mètres carrés de terrain, est-ce que vraiment, en réalité, j'utilise les 500 mètres carrés de terrain? Est-ce que j'utilise pas 350 mètres carrés, 400 mètres carrés? Donc du coup, je peux peut-être laisser une bande de 10 mètres carrés, de 100 mètres carrés, bien entendu. Du coup, je vais avoir des coccinelles, je vais avoir des araignées, je vais avoir des abeilles, je vais avoir des bourgeons, et je vais avoir des oiseaux. Parce que s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de pollinateurs, il n'y a plus d'oiseaux. Tout est lié. Et nous, on est en deux chaînes. Donc on peut tous faire quelque chose facilement. Je peux intéresser. Mais ça, c'est incomplet. Derrière vous, vous avez l'atelier de transformation. Donc là, on fait le pain d'épices, le nougat et la pâte à tartiner, mais que pour les grands. Il paraît que les enfants sont pas bons. Non, donc ça sera que pour les grands.
Ouais.
Alors, du coup, j'ai installé ici nos récoltes, nos miels, récoltées entre l'année dernière et cette année. Je vous dirai un peu au fur et à mesure. Et je les ai classées dans un certain ordre. On va les goûter dans ce sens-là. À votre avis, dans quel ordre je les ai installés, les enfants? Dans quel ordre on va les goûter?
Du plus doux au plus fort.
Exactement, bravo. Tu as été visiter les 14 jours.
Oui, c'est l'idée.
Ah oui, donc c'est bien le trésor. Exactement, donc c'est ça. On va goûter le miel du plus doux au plus fort. C'est un délire. Du plus doux au plus fort pour avoir toujours nos papilles disponibles. Alors, 2-3 petites choses pour déguster un miel. Voilà. Déjà, premièrement, je vous propose d'essayer de le garder 4 secondes dans la bouche. C'est-à-dire, c'est pas, le mettre dans la bouche, l'avaler direct. Parce qu'on n'a pas le temps de sentir vraiment les saveurs. Surtout pour ceux qui sont durs, qui sont cristallisés. Ceux-là, ils ont tendance à emprisonner un peu des saveurs. Et donc, nous, on va les réchauffer dans notre bouche à 37 degrés. Et là, pouf, les saveurs vont se libérer. On the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. All the while, how the ranks have grown, driven on by a heart of stone. We could find that we're all alone in the dream of the brown. On the wings of the night, as the daytime is swirling, where the speechless unite in a silence.
Nous sommes Bruno et Nadia Bondia, donc nous sommes apiculteurs récoltants professionnels à Sainte-Afrique. Donc la ferme, c'est l'Arc à miel au Mas de Roubi à Sainte-Afrique. Du coup. Ouais,
sur la route du château de Montaigu.
Tout à fait, sur la route du château de Montaigu.
Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'apiculture, ici en Aveyron et peut-être ailleurs auparavant?
Ailleurs, ça fait une 15-16 ans, mais vraiment sur l'Aveyron et professionnel, 10 ans maintenant qu'on est arrivé sur le territoire du Sainte-Africain. Et on a développé notre cheptel de 300 ruches. Oui.
300 ruches, ça représente à peu près combien d'individus?
Chaque ruche, ça peut monter jusqu'à 60 000 individus. Donc 60 000 divisé par 300, ça fait quelques millions de petites maîtresses, on va dire, parce qu'elles sont très exigeantes.
Donc aujourd'hui, 10 ans que vous êtes installé ici, 300 ruches, comment vous écoulez votre marchandise?
Alors là-dessus, on n'a vraiment, vraiment pas de problème. C'est-à-dire que tout est écoulé localement entre Sainte-Afrique, un petit peu Millau, et on a un magasin, le Locavorium sur Montpellier, qui propose certains de nos produits. Donc tout est écoulé localement. D'accord. Et après, beaucoup à la millerie, puisque de plus en plus. Et des gens qui sont venus, qui nous commandent sur Internet du miel, parce qu'ils nous connaissent par la visite. Voilà.
Donc vous ne faites pas le marché, vous ne passez pas par les boutiques type Biocoop, Del Pais?
Si, on est présent sur. D'ailleurs, ce sont les boutiques qui nous ont accueillis en premier, hein, parce que sur les marchés, on n'arrivait pas à y rentrer, puisque c'était saturé un peu en revendeurs de miel. Donc, on avait du mal. Donc, l'épicerie a été la première boutique, dès qu'on est arrivé, à nous dire moi, je veux bien vos produits. Donc, la Biocoop, depuis maintenant un peu moins d'un. Enfin, presque un an, puisqu'avant, on n'était pas en bio. On a pris le temps pour basculer tranquillement en bio, pour ne pas aller trop vite par rapport à ça, la difficulté du bio en apiculture. Donc les anciennes comme ça, on a été où on nous a accepté, c'est-à-dire les GMS, les grandes et moyennes surfaces.
D'accord.
Ce qui était vraiment ce qu'on n'avait vraiment, vraiment pas envie de faire, ouais. On n'avait vraiment pas envie d'aller dedans. Et puis ils nous ont bien accueillis, ils ont accepté de vendre nos produits au tarif que l'on voulait, ils achetaient nos produits à nos tarifs, en faisant une marge qui n'est pas énorme pour eux, hein, mais du coup, nous on avait notre miel qui s'affichait à 8 euros à côté d'un miel chinois à 4 euros. Et du coup, on s'est dit, on touche des personnes peut-être qu'on n'aurait jamais touché sur les marchés ou dans les biocoop, parce que ce sont peut-être des personnes qui ont élevé à l'époque, maintenant c'est en train d'évoluer, je pense, j'espère, qui n'allaient pas forcément là-bas. Et du coup, on a sensibilisé peut-être des choses sur les producteurs locaux en étant présents sur les GMS.
Donc, un beau métier qui, toi, t'a enthousiasmé. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilleras à tes enfants, par exemple?
Oh, mes enfants, ils feront exactement ce qu'ils veulent. Donc là, non.
Papa, j'aimerais bien.
Non, c'est un beau métier, comme tout métier qui travaille avec le vivant. Mais il faut, par contre, il faut se former. L'erreur, ça serait d'aller là-dedans, et malheureusement, j'en connais plusieurs qui pensent que c'est juste de la cueillette. Ça, malheureusement, c'était vrai il y a 20-25 ans, mais l'apiculture, avec tous les problèmes environnementaux, les maladies, tout ça, il faut prendre le temps, se former. Mais alors, en tout cas, il y a de la place, ça c'est sûr. Il y a de la place pour que des gens viennent s'installer, mais il faut prendre le temps. Moi, c'est le seul conseil que je dirais, c'est prenez le temps, rencontrez le maximum d'autres personnes. C'est vrai pour l'apiculture, peut-être vrai pour d'autres, certainement pour d'autres métiers agricoles, mais prendre le temps et se former et voir un petit peu ailleurs ce qu'ils font aussi.
Est-ce que vous faites de l'itinérance, c'est-à-dire proposer vos ruchers, les déplacer régulièrement pour telle activité agricole ou ce genre de choses?
Alors, ce n'est pas vraiment pour l'activité agricole, mais oui, on va transhumer, donc c'est comme les brebis, on parle de transhumance, donc on fait ça nous la nuit, et on va plutôt suivre les floraisons. Donc autant pour l'hiver, on va amener 200 ruches plutôt dans l'Hérault, parce que l'Hérault, ben, tout simplement, l'hiver est plus doux, les abeilles vont trouver à manger plus facilement qu'ici en Centrafricain, où une fois que le lierre est passé en octobre, il va falloir attendre, bon, j'allais dire le buis, mais malheureusement ici, le buis, il n'y en a plus beaucoup. Donc les premières fleurs, c'est-à-dire ben, le noisetier en premier, mais c'est que du pollen. Et alors que dans l'Hérault, au mois d'octobre, ils ont la bruyère multiflorale, en novembre, il y a l'arbousier, et dès décembre, on a déjà le romarin qui est en fleur. Ouais. Donc on va préférer déplacer nos abeilles pour qu'elles trouvent plus facilement à manger, qu'on ait moins à leur donner nous à manger, parce qu'il faut savoir que malheureusement, on leur donne à manger. Revers de la médaille de l'Hérault, c'est 15 mai, s'il n'y a pas plu, tout est cramé, tout est sec. Donc à ce moment-là, on revient, on ramène nos abeilles ici pour rejoindre déjà les 5 qui sont en place, et on va aller sur le cos ou sur les châtaigneraies à l'endroit et au moment qu'on les ramène sur les fleurs qui sont présentes à ce moment-là.
J'ai une petite question philosophique pour finir. Est-ce que toi, tu as une idée de ce que sera l'agriculture dans 10 ans, 20 ans, vu ce que tu as connu, vu ce que tu vois maintenant?
Difficile. Ben, j'aimerais bien plus une agriculture paysanne, de proximité. J'espère que je ne rêve pas, mais j'aimerais bien que ça parte là-dedans. Quoi. Des fermes plus petites à taille humaine. Alors, taille humaine, ça ne veut pas forcément grandir grand-chose. Mais est-ce que c'est la peine d'aller produire ici pour aller vendre nos produits à l'autre bout de la France? Est-ce que déjà, bon, je prends le miel, peut-être que nous, sur le miel, c'est plus facile parce que la demande est plus importante que l'offre, mais voilà, moi, les fermes plateau mi-vache, les fermes industrielles, pour moi, c'est plus l'avenir. On continue à s'enfoncer dans nos erreurs. Quoi. Donc, j'espère que, justement, ben, plus sur des petites fermes, plus locales, de la diversité aussi dans les fermes, et que d'ailleurs, après, ben, le grand public, mais je pense que peut-être que là, il y a eu une prise de conscience avec le confinement, que ben, localement, ben, on trouve des produits qui ne sont pas forcément plus chers que dans les grandes surfaces, peut-être même bien de meilleure qualité. Quoi.
Voilà, facilement traçable en plus.
Voilà, plus facilement traçable parce qu'on sait que le produit, ben, on prend le pot de miel, hein, il a été fait dans l'Aveyron, chez nous on peut venir nous rencontrer. Celui qui est vendu par les grands industriels, ben, ce que vous savez sur l'étiquette, c'est que c'est originaire UE, non UE. Donc vous savez que votre pot de miel, il vient de la planète Terre, mais vous ne savez pas d'où il vient. C'est déjà pas si mal, la planète Terre, on va dire.
Merci beaucoup Bruno, merci pour ton accueil. Et puis, au plaisir de se revoir et de regoûter ton miel.
Mais n'hésite pas.
Donc, je suis Nadia Fargé-Bondia. Donc, je suis apicultrice à l'Arc en Miel avec Bruno. Le staff, c'est 2 personnes. C'est... On n'est pas une grosse ferme, une grosse équipe. L'Arc en Miel, c'est une ferme d'abeilles sur Sainte-Afrique. On a 300 colonies d'abeilles. Donc, on est apiculteur professionnel. On fait que ça, enfin presque, puisqu'on fait aussi une activité d'accueil. On fait une visite immersion au cœur du monde des abeilles, auquel on tient beaucoup, qui nous tient à cœur. On fait aussi des formations, des stages découvertes et des formations pour les gens qui veulent aller plus loin. Bruno, il a, je pense, la passion de l'apiculture, de l'abeille. C'est ça qu'il a envie de partager. Moi, j'ai envie de partager... Mon émerveillement, j'ai envie que d'autres gens soient émerveillés du vivant, de la nature, de ce qui est extraordinaire dans chaque être vivant, quoi. Voilà.
Tu veux transmettre de l'enthousiasme quelque part?
Oui, transmettre de l'enthousiasme, de l'émerveillement, de la curiosité, ouais, pour qu'on, voilà, dans mon idéal, qu'on vive plus en harmonie avec le vivant, quoi. D'accord. Voilà.
Et grosso modo, les gens qui viennent vous voir, c'est surtout des touristes ou il y a aussi de la clientèle locale? Enfin, pour les visites en tout cas.
Pour les visites, juillet-août, donc c'est beaucoup des gens qui sont en vacances par ici. Et aussi des personnes, on a beaucoup de grands-parents qui reçoivent leurs petits-enfants, qui amènent leurs petits-enfants ici. Voilà. Et on aime beaucoup d'ailleurs ce public.
Et vous développez avec les écoles peut-être
Oui, tout à fait. On accueille des écoles et des centres de loisirs, des groupes, donc du coup sur printemps et septembre, et d'autres types de groupes adultes aussi. Assez peu les écoles du coin encore, quoique l'année dernière on a eu l'école de Vabre. Et on aimerait bien qu'il y ait plus d'écoles parce que il me semble, on a une activité qui n'est pas si fréquente que ça en France. Ouais. Cette visite immersion, elle est plus que venir voir juste vite fait un truc qui tourne et qui extrait du miel. C'est pas que ça. Il y a tout un parcours où on ouvre les ruches, etc. qui est, je pense, pédagogique. Du coup, on aimerait bien plus d'écoles.
Toi, c'est un métier, ça te plaît comme métier? C'est quelque chose que tu conseillerais, toi?
Oui, enfin, pour moi, tous les métiers, paysans de vente de produits locaux, on a peut-être une image quand on est en réflexion, quand on est ado, jeune adulte, à se dire qu'est-ce que je veux faire comme métier. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent tiens, je veux faire un métier en lien avec la nature et qui se retrouvent chargés de mission, machin, avec un master et tout. Ok, très bien, mais il n'y a pas tant de place que ça. Par contre, il y a vraiment de la place pour s'installer paysan. Et avoir un métier vraiment qui est beaucoup plus technique que l'image qu'on s'en fait, qui demande une tonne de compétences différentes dans la com, dans savoir gérer un cheptel d'abeilles ou d'autres choses, et qui n'est pas un métier d'idiot, bien au contraire. Et je trouve que c'est dommage que ce soit apiculteur ou producteur de plein d'autres choses, de salades, de charcuterie ou autre, c'est des métiers techniques, très intéressants et même passionnants. Ouais.
Est-ce qu'il y a une contrainte physique dans l'agriculture? Parce que dans pas mal de métiers de l'agriculture, notamment le maraîchage, c'est très contraignant.
Ouais.
Vous, comment ça se passe hein?
Alors oui, et ça c'est souvent quelque chose qui n'est pas vu d'ailleurs dans l'apiculture, on porte pas mal de charges lourdes. Ouais. Donc c'est physique, oui. Ouais. C'est pas juste regarder les fleurs et les abeilles qui vont dessus. Il y a un côté physique, mais en étant bien formé, on apprend les gestes qui fait qu'on se casse pas le dos en 5 ans. On a l'image, on peut avoir l'image que ah oui, c'est très physique, faut porter des trucs lourds, donc une femme c'est pas possible. C'est faux. Parce qu'une femme est capable de porter des charges lourdes aussi. Et puis, en faisant des gestes adéquats, il n'y a pas de raison, quoi. C'est possible aussi. Il faut bien se former. Moi, mon souhait, ça serait qu'on porte plus attention aux animaux, en tout cas qu'on élève. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'énervent à dire « faut pas élever les animaux parce que c'est pas bien ». Ben, on peut les élever de manière très respectueuse, très attentive, très à l'écoute. C'est des choix. Il y a des manières extensives, intensives. Il y a tous les niveaux de curseurs entre les deux. Et ben oui, l'avenir, pour moi, il est à être là, en plus, dans l'écoute de ces animaux. Et composer avec eux, avec leur possible, en fait. On n'est pas dans l'exploitation, de la production pure et dure. Certains le sont, y compris en apiculture. Ça existe, l'apiculture intensive. Mais pour moi, c'est une erreur. Et même en termes de rendement, c'est une erreur. On a tout intérêt à avoir une approche douce, même en termes de rendement. Voilà. Parce que quand on est sur un pied d'égalité, moi je trouve, avec les abeilles, quand on a une approche douce, elle nous le rend bien, quoi. Voilà.
Merci à Nadia et Bruno, et encore désolé d'avoir bouleversé le timing de leur visite guidée. Retrouvez cet épisode de Paroles Rurales ainsi que tous les précédents sur le site de radiosaintafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.